CIO Radio.TV, la radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et aux directeurs de la transformation digitale. En partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique. TNP, accélérateur de performance.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.FM, la radio à 100% dédiée au DSI et à la transformation numérique. À mes côtés pour co-animer cette émission, Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP Consultant. Bonjour, bonjour Guy.
Bonjour.
Ainsi que Bruno Buffenoir, qui est président France de ServiceNow. Bonjour Bruno, tout va bien?
Bonjour Alain, très très bien.
Aujourd'hui, un invité, comme chaque semaine, formidable, Alfonso González, qui est CEO de Manpower Group France. Bonjour Alfonso.
Bonjour.
Alors vous étiez en Argentine en 1968 et vous avez étudié en Argentine, mais également au pays de Donald Trump. Racontez-nous.
Donc, comme tous les Argentins, je suis né en Argentine. Il y a quelques années, j'ai fait mes études et une grosse partie de ma carrière professionnelle en Argentine. Après, j'ai travaillé pour l'Amérique latine et aussi aux États-Unis où j'ai fait un master qui était en relation entre les États-Unis et
la finance et la banque en aussi, finance, c'est ça
ouais,
quoi. C'est...
En finance.
Ah, vous êtes polyglotte, vous parlez combien de langues au total?
Je parle bien le français ou...
Ah non, parfaitement bien le français, quoi.
L'argentin ou l'espagnol, l'anglais et après un peu d'italien et de portugais.
Ouais, chapeau. Bruno, parlez combien de langues, vous, Bruno?
Deux.
Une et demie.
Vous, Guy?
Deux.
Ben voilà.
Honnêtement.
Alors, un petit mot d'abord sur l'Argentine. Vous êtes toujours en lien avec ce beau pays. La situation économique, elle est comment en ce moment?
Elle est compliquée à cause d'une situation internationale compliquée, parce que c'est un pays très dépendant de l'externe. On est un gros pays en termes de superficie, d'atouts économiques, etc. Mais pas beaucoup en termes de marché interne.
Ça a fluctué, quoi. Il y a eu des périodes. Quoi.
Exactement. Et donc aujourd'hui, on est dans une période basse, mais en train de nous refaire. Espérons que la situation économique mondiale s'améliore et ainsi la nôtre.
Exactement. Alors, votre premier job, c'était dans le conseil. Vous étiez chez Andersen.
Exactement.
Néo-EY. Qu'est-ce que c'était? Vous travailliez sur quelle mission à l'époque?
Je travaillais sur des missions multivariées, parce que à l'époque où j'ai commencé ma carrière professionnelle, il y avait un essor économique colossal en Amérique latine et en Argentine. C'était les années 90. Et il y avait très peu de professionnels qui étaient capables quand même d'aider les entreprises avec ce flux d'investissement et de nouveautés qui arrivaient. Et donc, ça m'a permis de travailler dans plusieurs domaines de systèmes d'information, de les stratégies, processus métiers, etc.
Vous avez rejoint Manpower en 2012. Un mot sur les métiers du groupe en France, qui est dirigé par un garçon formidable, Alain Roumillac.
Donc, Manpower Group en France, c'est une société de services de ressources humaines. Et nous aidons les entreprises, notamment tout ce qui est en relation avec l'emploi. Donc, la flexibilité, le recrutement, la formation, la gestion des carrières, l'externalisation et même des services IT.
Et la France représente autour de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça à peu près?
À peu près, oui, 5 milliards et quelques.
Et
oui.
Quelques, quoi. Et en équivalent temps plein pour les collaborateurs, il y a combien de personnes qui bossent chez vous?
Donc, on est 8000 collaborateurs en interne, mais il y a 100 000 personnes à l'emploi grâce à nous, tous les jours en France.
Bruno?
Ah oui, merci Alain. J'ai plein de questions pour Alfonso, d'autant que Manpower est un utilisateur historique des solutions ServiceNow, mais ce n'est pas ça ma question. Quel est le principal moteur finalement de la transformation digitale chez Manpower aujourd'hui, d'un point de vue sujet organisationnel?
Donc, nous sommes dialectique qui est que nous sommes une entreprise qui a deux gros partenaires. D'un côté, c'est nos candidats, nos intérimaires, nos freelances, et de l'autre côté, les entreprises. Donc on est, comme on dit, B2C to B, ou B2B to C. Veut dire que nous avons une transformation digitale un peu à deux vitesses. D'un côté, avec nos candidats intérimaires, etc., qui veulent faire de même qu'ils font dans leur vie privée, et donc énorme appétence pour le digital, et de l'autre côté, les entreprises qui ont une logique un peu différente. Et donc, nous sommes confrontés à essayer de un peu forcer, entre guillemets, la transformation digitale dans nos entreprises pour accompagner un peu l'appétence digitale générale en tant que consommateur et qui ont nos candidats, nos intérimaires, etc.
D'accord. Mais justement, dans la transformation digitale, on parle beaucoup de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui pourrait remettre en cause les emplois. Mmh. est-ce que finalement l'intelligence artificielle ne va pas challenger complètement Manpower dans son métier, dans son quotidien ?
Nous ne pensons que ce n'est pas du tout le cas. Et justement, on le voit même, nous avons beaucoup de nouveaux players qui essayent de rentrer dans notre marché. Mais en fait, il y a une logique omnicanale réellement chez nous qui est très présente, qui, quand même, on est dans le métier des ressources humaines. Et le digital, en fait, n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour l'agrandir, pour servir à, en fait, délester les humains de tout ce qui sont les tâches répétitives, les tâches à peu de valeur ajoutée, pour leur donner plus de temps, justement, à ce qui est la valeur ajoutée. Et on a plusieurs expérimentations dans ce domaine, justement.
Voilà.
Et enfin, Alfonso, chez Manpower, le CIO, il est plutôt porteur d'innovation ou il est plutôt porteur de la mise en œuvre de l'innovation ?
Bonne question, ceci. Hein.
En fait, il y a une phrase que je dis toujours, à laquelle j'y tiens à cœur, c'est « vision sans action, c'est des hallucinations ».
Ah, c'est bien, ça, on va la noter, celle-là. C'est...
Elle n'est pas à moi, c'est pas mal, un Américain. Et en fait, dans ce cadre-là, justement, ben, on fait les deux. Parce qu'on est d'un côté porteur d'une vision, la plupart des CIO, mais nous avons le devoir de la mettre en œuvre. Parce que notre rôle n'est pas seulement de proposer des idées et de faire, je dirais, des expérimentations en tant qu'innovation, mais réellement que ces innovations portent leurs fruits et un impact économique. Parce qu'en fait, c'est ça une innovation, quelque chose qui a un impact économique. Sinon, c'est une invention, c'est un gadget.
Guy.
Alors, merci Bruno, merci Alain. Alfonso, chez Manpower, comment opérez-vous la montée en compétences de vos équipes pour justement tirer cette transformation digitale ? C'est un sujet qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises et cette montée en compétences est souvent un point de difficulté. Alors, comment abordez-vous ce sujet ?
C'est un vrai sujet. Parce que, en fait, notre entreprise, hein, même si c'est une entreprise de service, on peut la catégoriser dans les entreprises brick and mortar. Donc, premier sujet d'une entreprise brick and mortar, c'est que on doit continuer notre business actuel, on doit continuer de délivrer des résultats. Et ceci avec l'équipe que nous avons de ressources humaines, avec toutes nos ressources, qui savent bien faire leur job d'aujourd'hui. Et en même temps qu'on fait ça, il faut introduire des innovations.
Préparer l'avenir aussi.
Quoi. Exactement. Préparer l'avenir et introduire des innovations, des manières différentes de travailler pour que peu à peu, en fait, ils appréhendent, ils adoptent ces nouveaux modes de travail et que, quand même, ils soient efficaces aujourd'hui et efficaces demain. Et c'est là où on a l'enjeu principal de comment on mixe dans le travail les deux.
Et dans vos propres équipes ?
Donc, dans nos équipes, justement...
Combien de personnes, d'ailleurs, dans vos équipes ?
C'est une équipe à peu près de 120 personnes en interne quand même, et à peu près le double en externe.
D'accord.
Parce qu'on est dans une logique où tout ce qui est, en fait, à faible valeur ajoutée, ben, nous le donnons à faire à des experts. On externalise beaucoup de nos services, notamment tout ce qui est ce qu'on appelle le run, le keep the lights on, c'est externalisé. Et nous, on est dédiés quasi exclusivement à la transformation, à l'évolution du business. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, on entame, on l'a entamé déjà il y a quelques mois, mais là, on passe à la vitesse supérieure, un programme de transformation qu'on appelle Agit, justement en direct avec les équipes de la DSI, pour en fait que nous transformer nous en véhicule de transformation, nous transformer nous dans ce qui apporte en fait de la valeur au business en apportant des changements au business, en étant nous ce qui propose des solutions plutôt que ce qui donne des outils qu'on nous demande nous demande.
Et enfin, à quel stade estimez-vous en être aujourd'hui au sens de l'avancement de cette transformation ? C'est au début, la moitié, deux tiers.
Attention là.
il y a un sujet, c'est que nous avons, comme diraient les Anglais, un moving target. Et le target, il bouge toujours dans la même direction, plus loin. En fait, le sujet, ce n'est pas de dire à quel désolé de vous contredire, mais c'est pas de dire à quel stade on est de cette évolution, mais en fait de réduire le gap entre où on voudrait y être, où est-ce qu'on est aujourd'hui, et toujours comme ça.
Bruno ?
Quand on a un président qui vient du monde de la technologie, ça met beaucoup de pression au quotidien ?
Pas du tout. Non, mais réellement pas du tout, parce que en fait, moi, je souhaite plutôt discuter de sujets business et de sujets de transformation avec mes collègues des comités de direction, avec les gens du comité exécutif, plutôt que d'expliquer la technologie. Oui. Et donc, avec Alain, le truc très simple, c'est qu'il entend très bien les enjeux, bah, beaucoup d'enjeux, hein, mais ceux de la technologie pure et dure, il les comprend, donc on discute pas de ça. On discute beaucoup plus de qu'est-ce qu'il faut
mise
faire
en œuvre,
pour,
hein,
exactement,
pour, penser, oui,
pour aller de l'avant, et notamment comment on fait pour transformer le business.
Ouais, donc c'est un facteur d'accélération, en fait.
Ouais,
oui, président qui comprend. Alors justement, en parlant d'accélération, vous en pensez quoi du management à la française, Alfonso ? On est bon, on n'est pas bon ?
C'est particulier.
C'est mieux, vous n'avez pas la langue de bois, c'est parfait. Ça,
c'est...
Ouais.
C'est particulier par rapport au management que j'ai connu ailleurs.
Oui.
Ailleurs. Je pense qu'il y a une énorme différence entre les Amériques et l'Europe, pas seulement entre la France. Comme la France est un bateau amiral de l'Europe, disons en termes de culture, de manière de faire, etc. Peut-être que c'est un des représentants les plus forts. Le management américain a des avantages, je dirais, par rapport au management français, si on sait être modéré, dans le sens où on se pose moins de questions et on est un peu parfois dans des sujets où on peut se poser toutes les questions du monde, mais il faut y aller. On sait peut-être être parfois un peu plus directif.
Ouais.
Mais bon, c'est des cultures
avantages, inconvénients. Alfonso, le plus beau métier du monde, c'est DSI ou alors c'est constructeur de Formule 1?
Constructeur de Formule 1, bien sûr, mais il faut avoir l'opportunité pour le faire. Ça, c'est mon avis, évidemment. J'aime énormément, en fait, être bâtisseur, construire des choses, et la technologie. Et donc, la Formule 1 est un bel exemple de construire quelque chose qui fonctionne, et qui, évidemment, est d'avant-garde. Et comme on le voit, beaucoup des éléments qui sont inventés pour la Formule 1 sont après, en fait, transférés dans le monde
du business,
des véhicules normal.
En sens large, quoi. Et alors, pour terminer, vous êtes le champion du monde du barbecue. Alors, pourquoi est-ce que la viande argentine est meilleure que la viande française? Parce que nous aussi, on a des vaches, nous aussi, on a de l'herbe. Mais la viande argentine, je ne sais pas si vous en pensez, Guy et Bruno, elle est juste excellente, quoi. Qu'est-ce que vous leur faites à vos vaches, là-bas?
Bon... Je ne suis pas, moi, celui qui doit dire qu'on a la meilleure viande du monde.
C'est très, très bon.
C'est même excellent. Si c'est absolument vrai.
Ah, vous voyez quoi.
Et en fait, je pense que l'énorme différence, je ne suis pas du tout un expert en élevage, mais je pense que la grosse différence, c'est que chez nous, on a des étendues énormes de terre pour...
Mais nous aussi, dans le Larzac, en Corrèze, il n'y a personne là-bas.
Oui, mais nous, c'est plus grand encore. et je pense que c'est la méthode d'élevage, peut-être, qui fait la grosse différence. C'est l'élevage, disons, un peu plus sauvage,
ouais.
Même si c'est encadré, etc., que celui qu'on fait en Europe, parce qu'on a une superficie sidérale de terre qui
est plus importante, quoi.
Très apte.
Merci beaucoup, Alfonso, Guy, Bruno. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.